On accueille Laetitia maintenant au 3921. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 44 ans et je vous appelle du Val d'Oise.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Laetitia, dites-moi ?
Alors moi je suis maman de deux enfants de 13 ans et 16 ans.
Oui.
Et mon fils de 13 ans souffre de cyclothymie. Et une des formes du trouble bipolaire, et il a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans. Donc je viens vous parler moi, de la bipolarité de l'enfant et du tabou qu'il y a autour de cette maladie chez les enfants. Et je suis également présidente de l'association Bicycle, qui est une association qui s'occupe d'enfants et d'adolescents qui souffrent de troubles de l'humeur et qui accompagnent leur famille.
D'accord. Et je vois que vous êtes aussi l'auteur d'un livre à paraître aux éditions Flammarion.
Qui est déjà paru.
Qui est déjà paru, d'accord.
Oui,
qui s'appelle Mon enfant cyclone. C'est votre histoire qui m'intéresse bien évidemment, Laetitia, parce que
Oui. Elle
a cette histoire racontée par vous. Elle va permettre à des parents, à des mamans, des papas ce soir, des grands-parents aussi, de remarquer ou peut-être de comprendre certains comportements parfois qu'on ne saisit pas chez l'enfant et puis ensuite chez le jeune. Donc on vous écoute.
Alors en fait, alors je vais peut-être commencer à expliquer ce que c'est la cyclothymie.
Oui, parce que moi je ne sais pas, vous voyez ça,
voilà.
La cyclothymie, j'en connais beaucoup, mais ça je ne sais pas.
Oui, c'est quelque chose dont on parle peu. En fait, la cyclothymie, c'est un trouble de l'humeur qui fait partie des troubles bipolaires. C'est vrai qu'on a toujours tendance à connaître la bipolarité typique et caricaturale, celui qui achète trois voitures le même jour, qui se balade tout nu dans la rue. Mais en fait, il existe un spectre du trouble bipolaire, donc avec plusieurs types de bipolarité. Donc c'est un trouble qui va toucher le cerveau et qui va entraîner une mauvaise régulation des humeurs, de l'énergie, des pensées et du comportement. Et l'enfant va osciller entre des phases d'excitation et d'agitation et des phases de dépression, de repli sur soi, et cela plusieurs fois par jour. Et il y a aussi ces deux phases qui peuvent même cohabiter en même temps. On parle alors d'état mixte. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'était la petite introduction. Et pour revenir à mon histoire, donc notre fils, Stanislas, était un petit garçon agité, compliqué, dès sa naissance.
Oui.
En fait, de ses 0 à 2 ans à peu près, c'était un petit garçon qui pleurait beaucoup, qui dormait peu. Mais à cette période-là, en fait, il a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, il a dû être hospitalisé plusieurs fois. Il a même été opéré. Donc, au départ, on mettait ça, effectivement, sur le compte de ses problèmes de santé. Mais après ces 2 ans, en fait, quand tout ça s'est un peu stabilisé, ces troubles du sommeil ont perduré. Et très rapidement, en fait, tous les gestes de la vie quotidienne sont devenus impossibles. Donc, ça pouvait être aller au bain, mettre son manteau, aller dans son siège auto, le sortir de son siège auto. Donc, tout un tas de banalités pour la plupart des parents, mais pas pour nous, en fait. Donc, il y avait une intolérance totale à la frustration qui provoquait, en fait, des crises d'une intensité extrême. Et ça pouvait durer plus d'une heure et ça arrivait plusieurs fois par jour. En fait, il était que rage. Et sa nounou, qui avait pourtant l'expérience, parce que c'était une de ses dernières années de nourrice, nous avait dit « moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Donc nous, on comparait avec sa sœur, donc il a une sœur aînée de 3 ans de plus que lui, et qu'on avait élevée exactement de la même façon, et avec laquelle on n'avait jamais rencontré aucun problème. C'était vraiment une petite fille hyper sage. Du coup, la première chose qu'on a fait, évidemment, comme tous parents, on s'est demandé ce qu'on faisait de mal. On a essayé de remettre en cause notre éducation. Et avec lui, en fait, on a tout essayé, donc la sévérité, la souplesse. Et en fait, rien, absolument rien, n'avait de prise sur lui. Et en fait, très rapidement, il y a d'autres symptômes qui se sont ajoutés.
Oui.
On a eu rapidement l'apparition de TOC. Par exemple, il fallait qu'il aligne ses chaussons sur les lames du parquet le soir avant de se coucher, sinon il ne pouvait pas dormir. Pareil pour quand il passait à table, il fallait que ses couverts soient parfaitement parallèles à son assiette,
sinon
il n'arrivait pas à manger, enfin, ce genre de choses. Et puis on a vu aussi des problèmes d'hypersensorialité. Par exemple, à l'école, il est arrivé qu'il ne supporte pas le parfum de la maîtresse.
Oui.
Autre facteur déclencheur de crise, ça pouvait être la chaleur aussi. Donc, dans les classes surchauffées, c'était parfois un peu compliqué. Et je me rappelle même que nous, à la maison, Pendant très longtemps, le feu de cheminée était totalement impossible parce que ça déclenchait systématiquement une crise. Donc voilà, et au fur et à mesure que Stanislas grandit, les crises deviennent de plus en plus fortes et il y a la violence physique et verbale qui s'installe également. Et à l'époque, moi, j'étais couverte de bleu car j'essayais de le contenir pendant les crises, pour qu'il ne se blesse pas lui-même déjà, et pour pas qu'il casse tout ce qu'il y avait autour de lui, surtout par exemple quand on n'était pas chez nous. Alors, pour comprendre un peu l'intensité en fait de ces crises, à 5 ans, il était capable de casser la porte de sa chambre, d'enlever toutes les lattes de son lit pour les balancer dans la cage d'escalier.
Oui.
Il a été sorti d'un musée par des vigiles. Enfin, vous voyez, c'était vraiment une intensité hors norme, en fait. Et à ce moment-là, on a aussi du harcèlement qui arrive, des insultes. Il était capable de me dire, par exemple, « Maman, quand est-ce que tu pleures ? Parce que moi, j'aime bien quand tu pleures. » Ou bien, par exemple, il prenait un objet qui savait être mon préféré et il l'explosait contre le mur. Donc, voilà. Et puis, il y avait plein d'autres petites choses comme... me souffler dans les oreilles, répéter 50 fois la même chose. Donc voilà, tout ça accumulé sur une journée, c'était extrêmement difficile. Et
je veux bien vous croire, un pauvre.
Ce qui était aussi extrêmement difficile à vivre pour nous, c'était ces changements d'humeur qui pouvaient être extrêmement rapides. Par exemple, quand on n'était pas encore remis d'une crise, il pouvait avoir, lui, de grands élans affectifs envers nous. Alors que nous, on n'était pas complètement remis, en fait. Et même à l'extérieur, en fait, souvent, on pouvait nous dire « Ah, mais vous avez de la chance, madame, d'avoir un enfant aussi adorable, curieux, intelligent. » Ce qui était vrai, parce qu'il l'était aussi. Mais voilà, vous voyez, il y avait vraiment deux facettes. Et pendant ces crises, il était capable aussi de se transformer physiquement. Il avait les yeux qui tournaient, la voix qui devenait rauque. Pas du tout celle d'un petit garçon de son âge. C'était hyper impressionnant. Dans ces moments-là, en fait, c'était plus lui, on le perdait complètement. Mais donc voilà, il y avait cet ascenseur émotionnel qui était extrêmement difficile à vivre.
Oui.
Mais en dehors de ces crises, c'était un petit garçon qui verbalisait beaucoup. Et il était conscient, en fait, qu'il était dysfonctionnel. Donc il nous disait que quand il était en crise, c'était comme si c'était un volcan en éruption. C'est comme s'il était enfermé dans une pièce dont il ne possédait pas la clé. Enfin voilà, donc on avait des grandes discussions comme ça le soir sur ses ressentis et ça me donnait de l'espoir, mais en fait le lendemain c'était reparti comme la veille au soir. Donc voilà, c'était extrêmement difficile et au fur et à mesure qu'il grandissait, donc on a eu plusieurs diagnostics qui ont été posés, suggérés. Le premier, on a eu un diagnostic de haut potentiel intellectuel.
Oui.
Puis un diagnostic de trouble autistique, essentiellement à cause de ses TOC, en fait, et des crises de colère. Et puis un diagnostic de TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
D'accord.
Et en fait, dans tous ces diagnostics, effectivement, il y avait beaucoup d'éléments qui ressemblaient à ces diagnostics, mais ça ne collait pas complètement, en fait. Donc, il a été suivi pendant ces périodes-là par des psychologues. Donc, nous, ça nous a beaucoup aidé, nous. Mais on voyait que lui, en fait, il continuait extrêmement à souffrir.
Oui.
En plus, il en était conscient parce qu'il nous disait « À force de mes crises, vous allez finir par plus m'aimer. Vous seriez mieux sans moi. » Et un jour, même, je demande à sa sœur ce qu'elle voudrait faire plus tard. Et il est à côté de moi, donc j'en profite pour lui poser la question. Et il me dit « Mais maman, plus tard, moi, je ferai rien, je me tuerai. » Donc voilà, toutes ces scènes répétées jusqu'à un soir où en rentrant de la garderie pour une contrariété de plus, il décide de se jeter sous les roues d'une voiture. Donc tout ça en fait cumulé pour moi un jour, ça a été un électrochoc et je me suis dit qu'il y avait autre chose, tous ces diagnostics qui avaient été posés ne pouvaient pas expliquer toute cette souffrance pour lui, pour nous aussi.
Oui.
J'ai continué à chercher dès que j'avais un instant sur Internet, du temps de midi pendant la pause déjeuner, la nuit. Et donc, un jour, je tombe sur le site de l'association Bicycle, qui est donc une association qui s'occupe d'enfants qui ont des troubles de l'humeur, en particulier d'enfants qui souffrent de troubles bipolaires et de cyclothymie.
Mmh.
Et là, c'est la révélation, en fait. Tout s'éclaire. Quand je tombe sur le site de l'association, pour une fois, en fait, tout colle. c'est l'histoire de notre vie. Je me dis que voilà, on n'est pas fou, que il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Et donc je contacte l'association et grâce à cette association, j'apprends en fait ce que c'est que la cyclothymie, que donc c'est la forme du trouble bipolaire qui est majoritairement retrouvée chez l'enfant avant 15 ans, que c'est une bipolarité qui est plutôt chronique qu'épisodique, avec des cycles extrêmement rapides. J'apprends aussi que la dépression chez le jeune enfant se manifeste différemment de chez l'adulte, notamment par des crises de colère explosives ou par d'intolérance à la frustration. Et donc, l'association me dirige vers des professionnels qui sont capables de poser ce diagnostic chez l'enfant. Et effectivement, je suis reçue par une psychologue. En fait, il travaille dans un cabinet avec une psychologue et un psychiatre. Et on fait un bilan neuropsychologique complet. En fait, pour poser un diagnostic de trouble bipolaire, il n'existe pas à l'heure actuelle d'examen, de prise de sang, etc. Donc, le diagnostic est ce qu'on appelle clinique. Donc, on a plusieurs entretiens, on remplit des questionnaires, on nous interroge sur les antécédents familiaux. Donc, c'est là que je découvre qu'il y a des antécédents familiaux de trouble bipolaire dans ma famille qui n'ont pas forcément été diagnostiqués. Donc, en fait, voilà, d'un coup, c'est un peu une sorte de grande révélation. Ça éclaire une partie de mon histoire familiale.
Oui.
Et le diagnostic est posé à ce moment-là.
D'accord. Donc, le diagnostic est posé, mais maintenant, il va falloir, se battre, hein, et bien évidemment, mais peut-être adapter quoi ? Un traitement médicamenteux, un suivi psychologique, parce qu'on sait qu'en psychiatrie, il y a deux écoles, hein. Il y a l'école freudienne et puis il y a l'école un peu plus scientifique où on part sur un traitement médicamenteux. Qu'est-ce que vous prenez comme voie avec cet enfant ?
Alors en fait, l'association nous explique très bien que la prise en charge du trouble bipolaire chez l'enfant, alors le traitement de première intention, c'est la thérapie comportementale et cognitive et la psychoéducation. C'est aussi l'avantage d'intervenir tôt chez un enfant. Et parfois, effectivement, quand les symptômes sont trop forts, il faut ajouter ce qu'on appelle un thymorégulateur, c'est-à-dire un régulateur de l'humeur, pour essentiellement permettre à l'enfant d'être accessible en fait à la thérapie. Il faut savoir que le médicament, c'est vraiment juste une béquille. Ça permet en fait de réduire l'intensité, la durée et la fréquence des crises, et tout le reste est obtenu par la thérapie. Donc moi, au départ, quand on consulte, j'ai espoir que la thérapie, la psychoéducation seule soit suffisante. Mais après, il ne faut pas oublier que la bipolarité, ce n'est pas une maladie psychologique. C'est vraiment psychiatrique. C'est un problème neurobiologique au niveau du cerveau. Donc c'est un problème de chimie du cerveau. Donc il y a une mauvaise régulation en fait au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc ce qui explique que parfois une molécule est nécessaire en fait. Donc c'est vrai que nous, en tant que parents, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. En plus, comme c'est pas quelque chose qui est encore connu et reconnu chez l'enfant, il n'existe pas de régulateur de l'humeur chez l'enfant. Il n'y a pas d'AMM, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché pour utiliser ces médicaments. Donc c'est une prescription hors AMM. Donc même si c'est quelque chose d'assez courant en pédopsychiatrie, c'est toujours quelque chose qui peut inquiéter. Donc le médecin nous rassure en nous disant... Effectivement, même si c'est un médicament qui n'a pas d'indication chez l'enfant, c'est un médicament qui est utilisé de longue date chez l'enfant,
oui.
Parce qu'il est prescrit pour l'épilepsie, en fait. C'est un anti-épileptique qui est donné depuis des années chez l'enfant. Donc, il y a un certain recul sur l'enfant, etc. Donc, ça, c'est le côté un peu rassurant. Mais c'est vrai qu'après, vous avez le regard extérieur. Les gens vous disent « Non, mais en fait, tu veux droguer ton enfant, c'est juste pour être tranquille ». Et puis, il y a tous ces tabous qu'il y a autour des troubles psychiques. Donc, moi, je dis souvent que si mon enfant avait été épileptique, j'aurais probablement eu aucune hésitation. Mais là, effectivement, comme ça touche le cerveau, c'est quelque chose qui fait peur.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc, on décide effectivement de franchir le cap. D'ailleurs, le médecin, le psychiatre, il nous reçoit mon mari... mon fils et moi, mais quand il parle du médicament, il s'adresse à mon fils et il lui demande est-ce que tu voudrais que je te donne un médicament pour t'aider. Donc mon fils accepte immédiatement quand on lui explique en fait ce que c'est que la bipolarité. Pour lui, c'est aussi un soulagement. Et il verbalise très bien et nous dit mais du coup c'est pas moi qui suis méchant. Et donc, si on m'aide, je peux réussir à lutter. Ce qu'on entend souvent autour des troubles psychiques, c'est que, surtout chez l'enfant, c'est que c'est un diagnostic enfermant, que c'est une étiquette. Et en fait, c'est enfermant pour ceux qui ne sont pas concernés, j'ai envie de dire. En fait, quand, si vous interrogez toutes les familles de l'association, toutes vous diront que ça a été l'inverse, en fait. Ça a permis, en fait, à chaque fois à toute la famille de retrouver la liberté. Parce que, justement, la vie était rendue complètement impossible avec toutes les manifestations du trouble, en fait. Et parce qu'on ne comprend pas. En fait, ce qui est le plus difficile au départ, c'est de ne pas comprendre. C'est ça qui rend fou, parce qu'on ne peut pas aider son enfant. Donc, du coup, Stanislas accepte ce traitement. Alors, on nous explique que, effectivement, les effets, premiers effets bénéfiques ne vont pas arriver tout de suite. C'est un traitement sur le long cours et qu'il faut bien sûr l'associer à la thérapie et que ce traitement va lui permettre de s'ouvrir à la thérapie parce que ça fait depuis plusieurs mois qu'il est suivi par une psychologue. Et nous, on a beaucoup progressé dans notre façon de l'accompagner parce que même si ce n'est pas éducatif, on doit adapter notre éducation à ces enfants différents. Lui, en fait, on n'arrive pas, en fait, il est complètement submergé par ses crises, c'est une espèce de tsunami émotionnel et il souffre énormément. Donc il prend ce médicament et au bout de 3 mois à peu près, en fait Stanislas, quand il était en crise, c'était un enfant qui hurlait, qui criait, on l'avait jamais vu pleurer, en fait. C'était des crises de rage. Et là, au bout de 3 mois, il rentre de l'école un jour et il nous demande de l'aider à préparer un spectacle. C'était sa passion du moment. Oui. Il pose la question à son père refuse. Il pose la question à sa sœur refuse.
Pourquoi ?
Et là, moi, je suis...
Pourquoi ?
Parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Voilà, ils n'avaient pas envie, enfin, ils faisaient autre chose.
Il y avait une certaine fatigue, une certaine lassitude aussi.
Oui.
Oui,
tout à fait.
Permettez-moi juste de relever que ils disent non tous les deux. C'est un peu surprenant. Un ras-le-bol un peu peut-être.
Oui, complètement. Ce qu'il faut savoir dans ce trouble, c'est que toute la famille souffre en fait.
Énormément.
Fatigue
énormément.
Oui, voilà, toutes ces ascenseurs émotionnels, c'est extrêmement difficile à vivre.
Les ascenseurs émotionnels mènent vers des dépressions, hein.
Oui, complètement.
Des
dépressions
un peu chroniques, mais c'est très compliqué émotionnellement pour les proches.
Tout à fait. On était arrivé à un niveau d'épuisement tel à un moment qu'on se demandait si on allait continuer à l'aimer, en fait. Ça arrive à un point tellement extrême qu'à un moment on bascule, en fait. Mon mari me disait, moi, à force, en fait, j'ai l'impression de perdre des points de vie. C'est comme si j'étais mort à l'intérieur. Il utilisait des termes comme ça. Ma fille, elle, me disait, quand mon frère est en crise, j'ai l'impression d'être un fantôme. Donc voilà, il y avait, un épuisement.
Oui, donc on sent bien, à travers ces mots, franchement, on sent bien la violence et la profondeur du ressenti.
Exactement. Et donc, pour revenir à cette scène de préparation de spectacle, donc moi, je me fige et j'attends l'explosion, en fait. Enfin, je me dis... Et en fait, pas du tout. Ce jour-là, il monte dans sa chambre en courant et il se met à pleurer. Donc, c'est la première fois qu'on le voit pleurer. Donc, moi, je le rejoins immédiatement dans sa chambre et je lui dis, Stanislas, tu viens de pleurer, c'est génial. Alors, il me regarde un peu interloqué et il me dit, maman, t'es bizarre. Mais tout de suite, il comprend, en fait. Et il me dit, oui, maman, je sais, j'ai pleuré, j'ai choisi la bonne émotion. Voilà. Et ça a été une scène vraiment hyper émouvante. Et à partir de là, en fait, il a appris, grâce aux séances de psychoéducation, de thérapie comportementale et cognitive, il a appris à mieux gérer ses émotions, il a appris à repérer les éléments déclencheurs pour pouvoir aussi les anticiper. Enfin, on a fait tout un travail ensemble, c'était vraiment un travail familial.
Ouais.
On repérait les éléments déclencheurs, on travaillait ensemble en amont des crises, évidemment, et on décidait d'un protocole, en quelque sorte, qu'on mettait en place au moment où il était en crise. Et même s'il n'était pas d'accord, comme on l'avait décidé en amont, ensemble, à un moment où il était capable de prendre une décision, parce que quand il était pris dans une crise, à ce moment-là, ça ne sert plus à rien d'éduquer. D'ailleurs, quand vous faites une IRM du cerveau, la zone émotionnelle est hyperactive dans le cerveau et la zone qui réfléchit, qui apprend, elle est noire. Le cerveau, il est totalement court-circuité. Donc à ce moment-là, en fait, on décide que quand il est en crise, on applique le protocole qu'on a décidé ensemble. Et c'est un moyen, en fait, pour l'enfant de reprendre le contrôle, et donc c'est quelque chose d'assez rassurant, par notre intermédiaire, à un moment où il en est incapable. Et donc, au fur et à mesure, on a eu, alors qu'on avait plusieurs crises par jour, on a fini, alors c'est long, hein, c'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. On a fini par avoir une crise tous les jours, puis une crise par semaine, une crise par mois. Et aujourd'hui, donc il a 13 ans, comme je vous disais, on n'a plus du tout aucune crise. La violence a totalement disparu. À la maison.
C'est formidable. C'est
complètement
formidable.
Disparu.
Et que diriez-vous de Stanislas aujourd'hui ? Il est un jeune garçon comme les autres ou il reste particulier ?
Alors, c'est un ado de 13 ans. On va dire qu'il est, ça reste un ado fatigant, un peu agité. Mais rien à voir avec ce qu'on a pu connaître.
Certains à 13 ans sont agités et un peu pénibles sans souffrir de n'importe quel trouble.
Voilà,
double,
je dirais que c'est plus... on est plus dans l'adolescence, en fait. En fait, si vous voulez, nous, on a eu l'impression qu'il était en crise d'adolescence depuis qu'il était né. Donc, finalement, la vraie crise d'adolescence nous paraît tout à fait légère, j'ai envie de dire. Donc voilà, il est scolarisé en milieu ordinaire, il a une bonne moyenne générale, il a une bande de copains. Alors il a un PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé parce qu'il souffre aussi de troubles 10, qui vont souvent de pair avec
qui
la
va de pair avec le reste, oui.
Très souvent, oui. Mais voilà, il a une vie normale. Alors comme il est en âge aujourd'hui d'interroger son traitement, il a posé la question à son psychiatre, parce qu'il va bien, de savoir si un jour il pourrait arrêter ce traitement. Et c'est aussi ça tout l'intérêt du diagnostic précoce. Donc son psychiatre lui a répondu qu'aujourd'hui, il préférait qu'il maintienne son traitement jusqu'à ce qu'il soit un jeune adulte, parce qu'aujourd'hui, il n'a aucun effet secondaire de ce traitement. Il lui expliquait qu'il n'était plus vraiment dans le soin, mais c'était plus une protection, comme un airbag, en fait.
Oui.
Et qu'à l'âge adulte, on pourrait envisager d'arrêter le traitement à un moment où tous les facteurs environnementaux seront favorables, qu'il aura un métier qui lui plaît, qui sera bien dans sa vie sentimentale, affective. Donc voilà, c'est aussi ça l'espoir du diagnostic précoce. Et aujourd'hui, du coup, nous, on a repris le cours de nos vies. On peut de nouveau sortir sans avoir peur qu'un mot ne fasse étincelle, sans avoir à mesurer chacune de nos paroles, sans avoir la sensation de marcher en permanence sur des œufs. On peut de nouveau donc voyager. Donc on a vraiment la sensation d'avoir retrouvé notre liberté, en fait, tous.
D'accord.
Donc c'est loin de ce qu'on entend sur le diagnostic des troubles psychiques qui est soi-disant enfermant. Voilà.
D'accord. Bon, tout ça est plutôt encourageant, en tout cas.
Tout à fait. C'est vraiment le message d'espoir que je veux faire passer, qu'avec un diagnostic précoce, oui, il y a beaucoup d'espoir avec une prise en charge adaptée. Et je voulais un petit peu parler de pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce diagnostic de trouble bipolaire chez l'enfant, parce que ça me semble important. Aujourd'hui, en fait, il y a une grande méconnaissance du spectre du trouble bipolaire, y compris chez les professionnels. Et il y a aussi beaucoup de tabous et de préjugés qui circulent sur les troubles psychiques en général, et encore davantage chez l'enfant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, la bipolarité chez l'enfant, c'est la dernière chose qui est envisagée après la maltraitance, les problèmes éducatifs, la dépression, les troubles du neurodéveloppement comme le TDAH ou l'autisme, mais aussi des particularités comme le haut potentiel ou l'hypersensibilité. Parce que, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que c'est que pour poser un diagnostic de trouble bipolaire chez l'enfant, le consensus en France, c'est de se baser sur les critères diagnostiques de l'adulte, alors que les symptômes donc, sont différents chez l'enfant, dans sa forme typique et caricaturale, alors que la bipolarité chez l'enfant, donc avant 15 ans, comme je vous le disais, est plutôt de type cyclotymique. Donc on va rechercher en fait une crise maniaque, entre guillemets, caractérisée, alors que l'entrée dans la maladie se fait dans 60% des cas chez le jeune enfant par la dépression. Donc il y a aussi beaucoup de tabous et d'idées reçues qui sont autour des troubles psychiques. en particulier chez l'enfant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Oui.
Et certains professionnels disent que poser un tel diagnostic chez l'enfant, c'est quelque chose de stigmatisant, d'enfermant, ce qui est quand même un comble quand on sait qu'aujourd'hui, on nous rebat les oreilles avec le fait qu'il faut déstigmatiser les troubles psychiques. Donc là, on dit qu'une maladie, en fait, est stigmatisante. Et pour mieux comprendre cette problématique, moi, je trouve que le plus efficace, c'est de faire le parallèle avec des maladies physiques. Par exemple, quand un enfant a un cancer, alors je prends à dessein une maladie grave, car la bipolarité, c'est une maladie grave. Donc, quand un enfant a un cancer, il est pris en charge, évidemment, le plus rapidement possible. Mais en France, quand un enfant a un trouble psychique, on attend pour voir comment ça va évoluer. Sauf que de la même façon que pour un cancer, la maladie, elle va s'aggraver et le pronostic vital de l'enfant peut être engagé. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de la bipolarité où le risque suicidaire et de mort prématurée est particulièrement élevé. Donc voilà, moi, le message que je voulais faire passer aussi, c'est que le diagnostic, c'est souvent un problème uniquement pour ceux qui ne sont pas concernés. Et ensuite, bien sûr, ça dépend surtout ce qu'on fait du diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est pas une étiquette. Vous savez, l'étiquette, c'est celle qui apporte rien et qui est fausse. Et à ce petit jeu-là, nos enfants en ont d'ailleurs beaucoup. On dit souvent d'eux qui sont mal élevés, manipulateurs, méchants. Donc, un diagnostic, faut considérer ça, en fait, comme le début d'une solution, car il va permettre, en fait, une prise en charge adaptée. C'est ça, tout l'intérêt du diagnostic. Bien sûr, chez l'enfant, rien n'est définitif. Et ça devra être réévalué régulièrement jusqu'à l'âge adulte, mais en aucun cas il définit ou il résume l'enfant. En fait, c'est juste une partie de lui avec lequel il doit apprendre à vivre. Et c'est le diagnostic, en fait, qui va lui donner des outils pour reprendre le contrôle de son trouble.
Exactement.
Et donc de sa vie.
Et c'est le diagnostic qui va surtout, je trouve que c'est d'une importance capitale, ce diagnostic va aider l'enfant à entendre parler de son trouble d'une manière claire.
Exactement.
Le diagnostic, c'est comme disséquer un peu ce gros point noir en plusieurs petites parties qu'il va pouvoir ranger comme il le veut et pouvoir ordonner et essayer de combattre, connaître son trouble.
Comprendre.
C'est commencer à le comprendre et à le combattre d'une manière, comment je veux dire, claire, c'est-à-dire avec une visibilité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Avant, quand on ne sait pas, et quand on est tout petit comme ça, eh bien, on est assailli comme quelque chose de très étrange. Hein, cette fureur, cette...
Tout à fait.
Alors que quand on sait que c'est là-haut que ça se passe dans la tête, et que, voilà, eh bien, on peut commencer le combat. Et puis, bien évidemment, la maturité amenant plus de réflexion... Je suis vraiment enchanté de vous avoir eu au téléphone ce soir, ma chère Laetitia, parce que votre témoignage est porteur de beaucoup d'espoir pour, je pense, beaucoup de parents qui nous écoutent et qui sont dans le dur en ce moment. Beaucoup de parents et beaucoup de grands-parents aussi, hein, ou d'amis, qui ont des amis dont les enfants sont dans... comme Stanislas était à 5 ans, 7 ans, 8 ans, hein, mais même tout petit. Et il ne faut jamais baisser les bras. Mais l'importance aussi, c'est de ne jamais baisser les bras et de continuer à suivre, faire suivre son enfant et ne jamais perdre courage parce que c'est souvent très difficile.
Tout à fait. Ce que je voulais dire aux parents qui nous écoutent, aux grands-parents, comme vous dites, c'est surtout de se faire confiance parce que c'est eux, en fait, qui connaissent le mieux leur enfant.
Exactement.
Donc, moi, mon conseil, ce serait de se renseigner sur tous les troubles qui ressemblent, car ce sont souvent des enfants qui ont fait autant de diagnostics que de médecins consultés. Et pour pouvoir un peu s'y retrouver dans tout ça, j'ai envie de dire que le meilleur critère diagnostique, en fait, c'est l'évolution. Et si elle n'est pas favorable, il faut continuer à investiguer, en fait. Voilà.
Très bien. Écoutez, merci mille fois, Laetitia.
Alors, je peux juste faire une petite conclusion.
Allez-y, je vous en prie.
Juste une petite conclusion. Je voulais dire que la bipolarité chez l'enfant doit être considéré comme un enjeu de santé publique, car si on agit tôt, en fait, on peut éviter des drames comme des tentatives de suicide, des hospitalisations, des cocktails de médicaments non adaptés, voire dangereux, que ces enfants reçoivent souvent. Mais aussi, on peut également éviter ce à quoi sont confrontés souvent les parents, c'est-à-dire des signalements, des informations préoccupantes.
Oui.
Et à l'association, on reçoit des parents de plus en plus qui nous font part aussi de signalements
oui, parce que
par méconnaissance.
Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, y compris des profs hein, et des instituts, qui ne connaissent pas, qui n'ont reçu
Exactement.
Aucune formation sur, et information aussi sur ces enfants qui malheureusement sont nombreux à souffrir de troubles.
Tout à fait. Et donc, le véritable enjeu du diagnostic précoce, ça doit être l'enfance du trouble bipolaire. Et les chiffres et les études nous le rappellent. D'après l'OMS, 50% des troubles psychiques débutent avant 14 ans. Et les études rétrospectives des adultes bipolaires nous prouvent que les troubles commencent majoritairement dès l'enfance. Donc, vraiment, l'urgence, c'est la connaissance pour qu'il ne soit plus jamais trop tard.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour cette conclusion, ma chère Laetitia. Merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Et, merci à vous.
J'espère qu'elle aura apporté plein d'espoir à celles et ceux qui, malheureusement, traversent ce type d'épreuve. Mais tenez bon, vous qui nous écoutez, il ne faut jamais baisser les bras. Et comme l'a dit Laetitia, votre enfant, c'est vous qui le connaît le mieux. Donc, c'est vous qui le rassurez le mieux et qui c'est vous qui pouvez l'emmener toujours, le tirer vers le haut. Merci Laetitia. On vous embrasse.
Merci à vous.
Bonne nuit. Et embrassez
nuit.
Stanislas pour nous. Au revoir.
Très bien. Merci, au revoir.